Je voudrais dire deux mots sur ces deux mots qu'on n'emploie pas assez quand on parle de nos radios, service public. Et j'en parle ce matin du service public parce qu'il est souvent remis en question, vous savez, parce qu'on adore le critiquer, mais aussi parce que on ne mesure pas toujours la chance que ça peut représenter pour vous comme pour nous. Une radio gratuite pour tout le monde et qui essaie de répondre à un certain nombre de missions. Parce qu'on parle bien de missions ici, beaucoup plus que de métiers. Et l'une de ces missions qui, pour moi, centrale, c'est de faire de ce lieu sonore un espace d'accueil où chaque sensibilité peut s'exprimer et parler à tous les auditeurs avec des invités établis, des artistes confirmés qui ont une place, un rôle et un sens dans le champ culturel aujourd'hui, parce que contrairement à d'autres émissions de la chaîne, c'est notre mission à nous de faire entendre leur voix le matin. Mais vous n'imaginez pas comme on s'efforce tous les jours de varier les genres, les discours, les pensées, les sexes, les publics, les origines, les histoires, les tonalités. C'est un casse-tête, mais un casse-tête à la gloire de l'ouverture à tous les arts. Et parce que la culture ne semble pas toujours accessible à tout le monde, bah peut-être qu'elle est là, notre première mission de service public. Ouvrir, je crois. Ouvrir.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui ne cache pas son amour de la radio. Directrice artistique de la Maison Chloé depuis bientôt 2 ans, c'est à la Maison Ronde qu'elle a choisi de présenter sa collection automne-hiver hier, un lieu de service public, androgynie, puissance, fluidité, sur fond de cavalerie romantique. Bonjour Natacha Ramsey-Lévy.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Défiler à la Maison de la Radio, quel sens est-ce que ça a pour vous d'abord?
Vous venez de parler du service public, je pense que c'est ce qui, ça fait partie de notre éducation, c'est notre chance et la particularité française. C'est l'idée que la culture n'est pas un business et que le plus important c'est l'éducation, l'ouverture et peu importe ce que ça rapporte.
Oui, et c'est comme si cette dimension de service public, à vous entendre, faisait partie de l'identité française.
Oui,
ça
absolument.
Revient souvent dans ce que vous dites.
Oui, je crois. Enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est une spécificité française. Enfin, la BBC est publique aussi.
Oui.
Mais pour moi, je l'englobe dans l'éducation, la télévision, les hôpitaux. Enfin voilà, ça fait partie de la spécificité française, de la façon dont ce pays a été construit jusqu'ici.
Et c'est l'éducation que vous avez reçue, vous, une éducation où vous écoutiez la radio tout le temps?
Ouais, tous les matins, ouais.
France Inter, j'espère, Natacha.
Certainement, je m'en souviens pas, c'était surtout les infos, c'était beaucoup moins drôle.
Est-ce qu'il existe une vision française de la mode, à votre avis? Je vous pose la question parce que ça fait assez longtemps que la Maison Chloé n'a pas eu à sa tête une française. Vous pensez que ça a un sens?
Oui, je pense qu'on travaille avec notre identité, elle nous colle à la peau, donc évidemment c'est aussi un jeu parfois de le distancier, à d'autres moments de l'embrasser, mais c'est très difficile de tricher, donc le fait que je sois française, forcément, il y a une spécificité française dans ma mode, en tout cas.
Et alors, ce serait quoi la vision française de la mode, à votre avis?
Celle de tous les contraires.
Une histoire.
On n'est jamais d'accord, non?
Ouais. C'est vrai.
Les Français pensent à gauche et votent à droite. voilà, donc c'est toujours un mélange de contraires et de choses contradictoires qu'on juxtapose. Et on essaie de dire plusieurs choses à la fois.
Et qui se ressent dans votre appréciation de la mode, vous ?
Oui, je crois. Je travaille toujours la silhouette comme une multitude de messages qui sont insufflés ou dans les bijoux, ou dans un vêtement, ou dans une chaussure qui
parfois
va contraster.
Parfois paradoxaux,
absolument.
Hier, c'était donc la présentation de votre collection automne-hiver 2019. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ce qu'on a pu voir, mais histoire de se plonger un petit peu dans l'ambiance du défilé, musique. Domestication of the mind. Domestication of compulsive behavior. A will of control. Commitment. Dedication. Love, rage and commitment. L'amour, la rage, l'engagement. Qu'est-ce qu'elle vous évoque à vous, cette musique composée par Jackson? Qu'est-ce qu'elle raconte en fait pour vous?
Elle raconte une balade engagée, alors avec cette figure du cheval comme l'animal qui représente à la fois la sauvagerie et la domestication, donc justement, on en revient peut-être à cette spécificité française des contraires. Donc oui, c'est une balade engagée dans ce qu'on fait, dans ce en quoi on croit, dans un engagement amoureux, émotionnel et politique.
Un jour, j'ai eu l'occasion de vous interviewer, vous m'avez dit que l'inspiration, elle vous venait souvent d'un mot. Quel est le mot à l'origine de cette collection ?
Un mot, voilà.
Pas cette fois-ci, j'ai l'impression.
Si, mais alors c'est en anglais parce que j'ai beaucoup travaillé les textes en anglais, donc c'était ride, donc ça serait une marche ou une balade ou c'est vraiment cette idée de mouvement, en tout cas de se mettre en mouvement.
Mais voilà. Ça se traduit par quoi concrètement ? Une mise en mouvement. Par quelle forme, par quelle matière ?
Alors du coup, ça s'est traduit par l'idée que les vêtements, c'est des vêtements qui sont faits pour l'extérieur, qui sont des vêtements protecteurs. Et aussi des vêtements qui ont été pensés à un moment par rapport à la nature, la façon dont on vit dehors, donc une certaine fonctionnalité et des détails qu'on associe directement en fait avec la vie dans les bois, dans la falaise, enfin sur les falaises, pardon.
Comme par exemple cette image de ce couple qui regarde au loin la nature, un couple en extérieur qui revient sur les imprimés.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette image ?
C'était l'idée d'avoir le couple comme une idée un peu ringarde, mais mais qui en fait est assez belle. À la fois représenter l'amour et à la fois représenter le début d'une communauté, le début du changement. Pour moi, la femme que j'ai dessinée cette fois-ci, c'était vraiment l'idée, cette idée d'engagement, donc un peu femme pionnière, chef de clan. Donc deux, c'est le début du clan.
Ah, c'est une vision de la femme qui est quand même très forte ici. Oui. Oui. Qui est lié à l'histoire de la maison Chloé ou à vous, Natacha Ramsey-Lévy ?
Les deux. Je dois répondre aux deux. Je crois que je suis incapable. Enfin, voilà. Évidemment, tout ce que je dessine pour la maison Chloé répond à ce qui a été créé depuis 65 ans. Et après, je le fais aussi avec mon cœur et mon émotion et en fait ma sensibilité. Je peux pas le faire autrement. Je peux pas tricher.
Ce qui a attiré mon attention, moi, c'est le mélange effectivement des imprimés, tantôt des imprimés Prince de Galles, quelques imprimés façon toile de Jouy, d'autres à fleurs. Il y a constamment effectivement des dissonances. Alors qu'est-ce qui fait l'unité en fin de compte ? C'est qu'il y en a pas ?
C'est une progression. J'ai essayé de raconter ce défilé-là. Il était un peu construit comme une épopée. Qui commence en effet par des princes de Galles, par des tissus laineux, des crêpes, des pieds de poule, en effet du t-shirt, des cagoules, enfin des choses assez chaudes, protectrices, des doudounes, des manteaux plaids. Et ensuite, petit à petit, ça s'allège, on rentre dans l'intérieur, les tissus deviennent des jacquards, de soie, de viscose, qui sont comme des papiers peints, muraux, ton sur ton. Donc là, on est vraiment plus dans un intérieur. Et la fin, c'est un peu la fin du conte de fées. Ça devient très féerique, aquatique. Donc voilà, c'est cette progression et l'histoire qu'on peut se raconter. Et ce qui fait l'unité, c'est les couleurs, c'est le personnage concret, parce qu'il y a quand même un maquillage.
Ce qui est fascinant, en tout cas, c'est que vous racontez votre défilé comme une histoire,
oui,
justement.
Oui, mais j'ai commencé ce défilé-là en me racontant l'histoire, et ensuite on a dessiné les vêtements.
Alors, quelle histoire, en fin de compte, histoire d'une femme ?
Oui, une femme, mais pas seule, encore une fois.
Même si c'est un peu ringard, ce que vous venez juste de dire. Et en tout cas, l'unité, elle se fait aussi par les accessoires, j'ai l'impression que vous utilisez. Je pense notamment aux chaussures, les bottes, avec des talons très carrés, très larges. D'où viennent-elles ? À quoi est-ce qu'elles font référence ?
Mais les chaussures, c'est l'allure. Je pense que c'est très important. C'est ce qui, c'est ce qui nous tient au sol. Donc c'est ce qui va déterminer la position du corps, l'allure, la vitesse, le mouvement. Et comme cette collection-là, en plus, était sur cette idée d'engagement en avant, de mouvement. La chaussure, oui, c'est une boots d'inspiration masculine. Qui peut faire référence aussi à des choses d'équitation ou des chaussons de plongée parce qu'elles sont toutes souples et assez fines. Et elles sont assez un talon de 5 cm, donc vous savez quoi, on peut trotter tous les jours.
À quoi est-ce qu'on mesure la réussite d'un défilé, Natacha Ramsey-Lévy ?
Alors pour celui-là, je ne sais pas encore, moi je suis hyper prudente comme personnage, donc
aux réactions en fin de compte
aux réactions, oui, il y a déjà un truc assez agréable, c'est quand on vient pour saluer il y a cette nouvelle mode maintenant qui est de prendre des photos tout le temps. Donc d'habitude, enfin, il arrive souvent que quand on vient pour saluer, tout le monde a son téléphone dans les mains. Donc il y a presque peu, très peu d'applaudissements. Et là, hier, je dois dire, c'était extrêmement agréable parce que tout le monde applaudissait. Donc ça, déjà, ça fait du bien.
Ce qui est frappant, et je dois le dire, d'aller dans un défilé, c'est qu'effectivement, ça dure entre 5 et 12 minutes. Mmh. Et on se rend bien compte du travail qui a été fait en amont. Et on se dit tout ça pour ça, pour si peu.
Oui, je sais que ça paraît absurde quand on n'est pas dans ce milieu-là. De créer un événement qui dure en effet entre 12 et 15 minutes, qui représente 6 mois d'aboutissement de travail, un investissement dingue. Mais en même temps, on n'a pas trouvé une autre formule que celle-ci qui serait pas ennuyante.
C'est un enjeu monumental pour la maison, un
oui.
défilé automne-hiver.
Oui. Oui, parce que c'est vraiment l'aboutissement d'une vision d'abord, et ensuite c'est le moment où la maison peut vraiment s'exprimer et donner de la visibilité à tous les endroits. Donc oui, c'est un enjeu fondamental.
Et puis je pense qu'il y a un enjeu financier aussi, tout
énorme.
Simplement.
Ouais, c'est le plus gros investissement pour une maison, c'est le défilé. Je veux dire le set, enfin toute la décoration. Les mannequins, l'investissement même sur les vêtements. Donc, et du coup, l'investissement en communication qu'on fait autour. Donc oui, c'est le nerf de la guerre.
Vous savez qu'il y en a une dans cette émission qui n'a aucun enjeu. Peut-être que vous la connaissez, c'est la culture et son actualité sans aucun intérêt. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 1er mars?
Si on ne montre jamais ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la beauté, la douceur, l'amour fugace, même s'il est fugace entre les êtres, à quoi ça sert ?
Pierrette Éternelle, la femme de lettres française Pierrette Fleutiot, s'est éteinte hier à Paris. Elle avait 77 ans, originaire du Limousin, agrégée d'anglais. C'est lors d'un exil libérateur à New York dans les années 70 que la romancière en devenir s'était mise à écrire d'abord en anglais, puis ensuite en français. Auteur d'une vingtaine d'œuvres, réfléchissant le plus souvent aux relations filiales, au poids de la famille, Pierrette Fleutiot avait notamment reçu le prix Femina en 1990 pour son roman Nous sommes éternels. Ima en folie, l'Institut du monde arabe à Paris inaugure aujourd'hui la première édition de son nouveau festival Les Arabofolies. Décliné dans les arts, les idées, la musique, l'événement s'articulera autour de la Journée internationale des femmes et invitera artistes et intellectuels à se rassembler autour du thème de la résistance. Au programme notamment une nuit blanche au rythme de l'électro palestinienne du collectif Electrostine et un concert hommage à toutes les femmes orchestré par la chanteuse algérienne Swad Massi qui sera notre invitée vendredi prochain.
Thierry Mugler est un touche-à-tout de génie, avant-gardiste, anticonformiste, visionnaire et perfectionniste.
Couturissime Tabernacle, le musée des Beaux-Arts de Montréal au Québec accueille Thierry Mugler, Couturissime, la première grande rétrospective consacrée à l'artiste français, couturier visionnaire, metteur en scène, photographe, parfumeur aussi. En tout, 140 pièces exposées, des tenues haute couture aux costumes de cinéma, en passant par des croquis, des photos, des vidéos. C'est 35 ans de création spectaculaire, glamour, futuriste qui sont mises à l'honneur. Bonheur. Abracadabra, les Daruma, la Japan Expo a dévoilé hier les lauréats de ces prestigieux prix qui récompensent chaque année le meilleur du manga et de l'animation. Résultat, c'est l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama qui remporte la mise avec deux prix, dont le Daruma d'or du meilleur manga, tandis que The Promised Neverland de Kayu Shirai et Pozuka Demizu réalise aussi un doublé dans les catégories meilleur scénario et meilleure nouvelle série. Burabo les coco. Natacha Ramsey-Lévy, directrice artistique de la maison Chloé, invitée de Boomerang ce matin. Chloé, c'est une maison française qui est née, vous l'avez dit, il y a bientôt 70 ans, créée par Gabi Aguillon. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette femme, vous ?
Indépendance, assurance, et une certaine forme, enfin en tout cas Gabi Aguillon, une certaine forme d'avant-gardisme.
Je suppose que quand on devient directrice artistique d'une maison comme celle-ci, on pense à celle qui l'a créée, à celle qui l'a fondée. Elle
oui.
est là, non ?
Oui, oui, absolument. C'est comme ça que j'ai, enfin quand j'ai postulé pour le poste, quand t'es venu me chercher, oui, je me suis plongée justement dans qui était Gabi Aguillon, comprendre qu'elles avaient, comment elle avait commencé cette maison, et j'ai adoré cette histoire. Ouais.
Et dans quelle mesure est-ce que vous vous inscrivez dans son héritage, vous ?
Je m'inscris dans l'héritage de toute la, de la maison depuis 70 ans. Donc, c'est Gabi et Karl Lagerfeld et Phoebe Philo. Enfin, voilà, c'est, chacun des designers ont écrit les différents chapitres de cette maison. Mais elle, Gabi, je trouve que ce qui était très intéressant, c'est qu'elle a vraiment posé les fondements de ce qu'est encore aujourd'hui Chloé, c'est-à-dire une marque faite pour s'habiller de manière assez immédiate, démocratique, compréhensible et pas tellement pour faire une mode extraordinaire et avant-gardiste. Elle-même l'était en fait, et elle habillait des femmes qui avaient plutôt besoin d'être habillées dans leur quotidien et d'accompagner leur personnalité plutôt qu'un besoin de parader en fait.
Pourtant, quand vous êtes arrivée dans la maison Chloé, tout le monde a dit que vous bousculiez les codes, Natacha.
Oui, mais tout le monde a toujours une opinion sur ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. Donc oui, forcément, je pense pas que j'ai bousculé des codes. Je pense que j'ai réinterrogé certains et j'ai été en chercher surtout dans toute l'histoire de Chloé depuis 70 ans. J'avais envie de refaire appel à Gabi, de faire appel à ce qu'a fait Karl. Enfin voilà.
Mais c'est vrai que ça c'est assez passionnant. C'est-à-dire qu'on s'inscrit à la fois dans l'héritage de la créatrice de la maison, mais aussi de tous les designers qui ont suivi. Et effectivement, l'univers de Chloé a été marqué par la griffe d'un certain Karl Lagerfeld, auquel vous avez rendu hommage hier et qui est resté à la tête de Chloé pendant près de plus de 20 ans. Les années Lagerfeld, ça représentait quoi en fait pour cette maison?
Je crois grande liberté, irrévérence, glamour.
Il y a des pièces iconiques qui vous viennent à l'esprit?
Oui, il y en a plein. Alors, il y a des robes iconiques qui ne sont pas forcément mes favorites. Il y a la robe guitare, la robe tuyau de douche. Bon, là, ce qui sont plutôt les robes presque humoristiques. Moi, ce n'est pas forcément ce que je préfère. Mais c'est surtout des personnages qui me restent à l'esprit. C'est-à-dire qu'il a travaillé... La façon dont il travaillait avec ses mannequins ou avec les actrices Stéphane Audran était complètement inclusif, c'est-à-dire que on ne fait plus la différence entre sa vie, ses amis, il se met lui-même en scène. C'est hyper sensuel, hyper glamoureux, c'est légèrement outrageux. Enfin, c'est voilà, il y a un mélange de genres qui est assez génial.
Et cette façon de se renouveler effectivement continuellement.
J'ai toujours peur de parler ce que je suis en train de faire parce que j'ai entendu tellement d'interviews de stylistes, de couturiers où ils parlent d'une révolution, du changement de ceci, du changement de cela, du retour de la féminité, comme si elle n'était jamais partie. Et après, on voit la même robe. Il y a même certains qui sont particulièrement spécialisés dans ce genre de discours et après, on voit toujours la même robe. Bon. Ce qui est un peu que si ça n'est pas la même robe, on ne va pas la reconnaître, on ne va pas croire c'est eux. Et c'est ça que je trouve passionnant à la mode, c'est de changer... Avec l'époque, moi je ne fais pas la même robe que je faisais il y a 10 ans, et après tout je ne parle plus la même gueule que j'avais il y a 10 ans. Et les gens qui ont toujours le même style, sous prétexte que c'est leur style, je trouve ça la chose la plus desséchante et la plus ennuyeuse de la Terre, sous prétexte de personnalité. Si la personnalité est soumise à si peu d'évolution et qu'elle va se cramponner dans une chose répétitive comme ça, ce n'est pas très rigolo.
Karl Lagerfeld en 1980, alors qu'il est encore chez Chloé, ça vous inspire, Natacha Ramsey-Lévy?
Oui, c'est génial. Il est incroyable parce que... On pourrait dire tout à fait le contraire. Marguerite Duras, elle a un uniforme et elle est géniale. Donc, c'est la persuasion de la parole, quoi. Quoi qu'il dise, ce sera intelligent et ce sera le bon mot. Donc, oui, ça m'inspire parce que moi aussi, j'adore la mode et j'adore le changement et j'essaye que chaque saison soit différente et une proposition différente. Et c'est pour ça que j'adore mon métier. J'aime la mode.
Parce que le vêtement est aussi un reflet de l'époque, c'est ce qu'il dit en creux.
Absolument.
Et que ça change sans cesse. Ça veut dire que vous avez beaucoup changé, vous aussi?
Oui, oui. Après, on travaille toujours avec les mêmes références, les mêmes codes. Il y a des choses qui reviennent, il y a des obsessions. Mais bien sûr, on évolue. Sinon, on s'ennuierait énormément.
Mais par exemple, Natacha, cette collection automne-hiver 2019, qu'est-ce qu'elle dit de notre époque, justement?
Mais c'est ce que j'essaye de le dire un peu entre les lignes. C'est cette idée d'engagement, c'est cette idée que voilà, on s'habille pour dire quelque chose de nous-mêmes. Moi, j'ai mis beaucoup de bijoux, notamment sur ce défilé-là, et c'est des bijoux gris-gris sur lesquels il y a plein de souvenirs de la nature, donc de la mer avec des coquillages, avec des choses qui imitent des coquillages ou qui imitent des dents de requin. Voilà, c'est un peu aussi histoire d'amour pour notre planète, la nature, comment on vit aujourd'hui. Je vois que vous êtes passé au non-plastique, je suis passé au non-plastique aussi. Enfin voilà, c'est, je pense que tout ça, c'est tout ce qui nous habite tout le temps et comment ça, en fait, ça se traduit de manière plus ou moins abstraite. Et
parfois, vous vous dites que ça va trop vite.
Ah oui, ça va beaucoup trop vite.
Ouais.
Ça va beaucoup trop vite, mais en même temps, c'est le moteur de notre métier. Donc, c'est un drôle de mélange. C'est-à-dire qu'on s'en plaint. Non, pour moi, il y a trop de collections. Après, la vitesse... non, on est vraiment un métier où on est touche à tout, on pique un peu partout. Alors, il y a un truc un peu dégueulasse à cet endroit-là. Mais en même temps, c'est quand même une opportunité géniale, la mode, de pouvoir s'inspirer de tout et n'importe quoi.
Et pour autant, moi, ce qui me frappe, c'est que quelquefois, on crée un vêtement qui, aussitôt montré, est immédiatement démodé.
Je ne sais pas si c'est démodé. Je saurais pas vraiment dire ce qui est démodé. C'est plus une question de désirabilité. On en a plus ou moins envie à un moment, oui.
Qu'est-ce qui fait la beauté d'un vêtement, pour vous, Natacha Ramsey-Lévy ?
Une certaine forme d'élégance, de construction, de proposition, une structure. Structure et légèreté, ben voilà.
Quand est-ce que vous avez pris conscience, vous, de ce que pouvait un vêtement, justement ?
Très vite, je pense que j'ai voulu faire de la mode parce que j'ai pris conscience de ce que pouvait faire un vêtement.
Et comment ?
Parce que, instinctivement, je m'habillais pour dire quelque chose de moi-même.
Ah, c'est vrai ?
Mm-hmm.
Par exemple ?
Par exemple, des exemples vraiment pas forcément géniaux. Par exemple, une casquette Kangol à l'envers, comme un peu Kaira des années 90, avec un t-shirt de rave party et un grand pantalon un peu années 70. Enfin voilà, donc cette espèce de mélange totalement absurde, immonde,
mais qui
de silhouette,
disait quelque chose,
mais qui disait
passé.
Un peu, voilà.
Le vêtement que vous préférez porter, vous, c'est quoi ?
Une veste.
Pourquoi ?
Structure et souplesse.
Structure et souplesse, bon, on va en parler. On va continuer à en parler de structure et de souplesse, de vêtements, de nippes, de fringues, d'habits, de détours, juste après un petit Bowie de circonstances, histoire de bien terminer la semaine. Fashion 1980, Natacha Ramsey-Lévy, directrice artistique de la Maison Chloé, dans Boomerang, évidemment, to the left, to the right. We'll be right back.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Elle inspire confiance, je sais pas comment vous dire, ça c'est quelque chose de certain, avec ses cheveux flous, son air bienveillant, son regard très déterminé. On lui donnerait carte blanche pour nous rhabiller de la tête aux pieds, si elle faisait de l'homme. Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle en fait beaucoup. Elle porte une veste en caviar de laine grise, un t-shirt et un de ses colliers qu'elle a présenté hier, bleu et argenté, façon alu froissé, avec des cornes gris-gris comme des dents de morse. Très naturel, tout ça. Natacha Ramsey-Lévy, directrice artistique de la Maison Chloé, invité de Boomerang ce matin en pleine semaine de la mode parisienne. Natacha, vous serez du 25 au 29 avril présidente du jury du Festival de la mode et de la photographie de hier, qui est un festival international découvreur et prescripteur des talents de demain. Vous-même, vous n'êtes pas bien vieille. Est-ce qu'il se passe quelque chose en ce moment en termes de renouvellement, d'effervescence, de créativité dans la jeune garde de la mode ?
Oui, je pense qu'il y a une audience aujourd'hui qui est possible, qui n'existait pas avant. Avant, on était dans un système beaucoup plus classique où on faisait nos classes. Mmh. Parce que, en tout cas, moi, c'est mon parcours et c'est quand même un parcours assez commun. Voilà, on faisait nos classes dans une certaine hiérarchie. Mmh.
Ce que vous avez fait, on commençait stagiaire.
Ce que j'ai adoré faire. Ouais, hein, ouais. Donc, je ne critique pas ça. Mais aujourd'hui, comme la mode est à la mode... il y a beaucoup plus d'audience, de recherche, donc tout le monde cherche des talents, donc il y a des prix, et ces prix ont une visibilité de plus en plus grande, donc c'est génial, je pense, d'être jeune aujourd'hui, de vouloir faire de la mode.
Et à quel moment vous vous êtes dit que vous aimeriez créer des vêtements, créer des associations, puisque c'est un petit peu ça, on l'a compris.
Je pense, assez tard, je vais avoir une vingtaine d'années, ou 18 ans peut-être, entre 18 et 20. Mais c'était vraiment, pour moi, d'abord un moyen d'expression de ce que je voulais dire. J'étais assez timide, c'était une façon de la façon dont on s'habille, c'est le premier impact qu'on donne, c'est la première chose qu'on donne à avoir de soi. Et du coup, je me suis rendu compte que j'utilisais la façon de m'habiller, de me coiffer, de me tenir, pour dire tout ce que je pouvais dire de moi.
Et pourtant, vous faisiez des études d'histoire à l'époque.
Mais oui, absolument, mais ça n'empêche que je m'intéressais à plein d'autres choses.
Les arts en particulier.
Les arts en particulier, oui,
absolument. Le cinéma, la photographie, ça devait vous tenter. Ouais. Parce que d'une certaine façon, vous êtes amené à toucher un petit peu à tous ces arts aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu dans ce métier-là, c'est que on s'inspire de tout. On est complètement touché à tout. Alors évidemment, c'est pas forcément en profondeur. Maintenant, moi, j'ai mon background un peu sérieux qui m'oblige, où je me dis, je peux pas juste surfer sur les choses. Donc, j'essaye quand même de, quand j'attaque un sujet, d'y aller sérieusement. Mais oui, on s'inspire, des artistes, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de la musique. Ça peut partir de n'importe où.
Quelle image est-ce que vous aviez du milieu de la mode avant d'y aller?
Mauvaise. Enfin, non, pas une mauvaise image. J'avais pas une image sur le milieu, mais c'est vrai que dans mon éducation, la mode, c'était vu un peu comme la publicité. C'était des choses extrêmement commerciales. Pas forcément.
Et ça, on l'entend, c'est quelque chose contre lequel vous vous battez, cette vision de la mode.
Je pense que ça a beaucoup changé, parce que encore une fois, la mode est à la mode depuis pas mal d'années, donc a une visibilité aussi beaucoup plus grande. Je pense que c'est la dimension luxe de la mode, c'est aussi beaucoup démocratisé. Donc ça a beaucoup changé. Mais oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est un métier qui est passionnant, qui fait travailler une grande part de l'industrie française.
Bien sûr, c'est une immense richesse française.
C'est une immense richesse française qui a, en plus, c'est jusque-là pas été très défendue par le service public, justement. Donc c'est dommage. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, ce changement-là est en cours. Les expositions ont une plus grande résonance. Je suis invitée aujourd'hui de Boomerang, je vous remercie.
Bon, on est ravis de vous accueillir, surtout. C'est vrai que c'est un art qu'on n'interroge pas assez dans cette émission. Mais peut-être justement à cause de sa proximité avec ces milieux de l'argent, dont on se dit immédiatement, c'est inaccessible, ça ne parle à personne, c'est très technique aussi,
oui,
la mode.
Oui, c'est très technique. Mais... c'est très technique, en effet, et je pense que c'est difficile mais comme tout, c'est difficile de regarder une peinture si on connaît pas un peu l'histoire de la peinture. On peut avoir une émotion, donc, mais une émotion n'est pas une réflexion. Voilà. Donc, quand on regarde un défilé, Je pense que des maisons comme Chloé sont des maisons justement qui sont extrêmement faciles à comprendre. Moi, c'est mon but chez Chloé, c'est quand même d'avoir une mode qui est, que j'appelle démocratique, dans le sens où elle est accessible, elle est facile à comprendre. On n'est pas obligé de connaître toute l'histoire de la mode pour regarder un défilé Chloé. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours connu la maison Chloé.
Et l'approcher avec de l'humilité aussi. Ça, c'est un mot qui revient souvent chez vous, l'humilité.
Oui, bien sûr, la maison est plus grande que moi, je suis qu'un chapitre au milieu de tout ça, donc
L'humilité, voilà. C'est de savoir qu'on va passer aussi.
Oui, oui, que c'est de savoir qu'on va passer, c'est aussi... voilà, moi, c'est ce que je disais, je fais une mode... pas sans prétention, parce que je pense que je suis quelqu'un d'exigeant et de précis et qui a un point de vue, mais je crois pas que je fasse une mode avant-gardiste et révolutionnaire. Il y en a d'autres qui le font et qui le font avec brio.
Merci infiniment, Natacha Ramsalevi, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous serez présidente du jury de la 34e édition du Festival de la mode et de la photographie de hier, du 25 au 29 avril. Merci à vous et merci à toute l'équipe des fashionistas de Boomerang, la directrice du studio, réalisation, Lola Costantini, la bouqueuse infernale, Valentine Chedebois, le chroniqueur mondain, Léonard Billot, le mannequin, Pierre Martinerie, la petite main, Paul Guillotte et le DJ, Jean-Baptiste Audibert. Merci les amis, on se voit lundi. Tout de suite les médias, Dorothée Barba, juste après ça.
Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Elle est partie, c'est rien de le dire, pas sur un coup de tête. Sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre la fenêtre, le ciel est noir d'oiseaux. La vérité nue, la vie crue, les nuits bleues, le bruit et la fureur, le ciel a changé, il a changé de place. Oh.
Nuit bleue, Bertrand Belin sur France Inter, et tout de suite c'est l'heure des médias avec Dorothée Barba. Vous m'entendez, Dorothée?
En effet, bonjour Augustin.
Bonjour et bravo pour cette semaine.
Merci
même.
À vous.
C'était super de vous entendre.